vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Auditrices, auditeurs, bienvenue dans la cinquième saison de l'émission de SF de Radio Évasion. Cinquième déjà ? Le temps passe vite. Pour cette nouvelle saison, nouvelle formule. Avant, je parlais de SF, dorénavant, je vais faire de la SF. Je me suis lancé dans l'écriture de nouvelles radiophoniques. À chaque émission, je vais vous raconter une histoire originale, et je ne vais pas vous le cacher, ça va beaucoup parler de robots. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, voici le premier récit. J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Aujourd'hui, c'est fiction. Giacometti.
Société nouvelle de robotique. Fondée en 1974, la SNR, Société Nouvelle de Robotique, est présente sur tous les mondes connus et à toutes les époques pour vous apporter son expertise en matière robotique. Notre domaine de compétence va de la conception et fabrication de robots avec ou sans intelligence artificielle à la récupération de modèles robotiques complexes en symbiose avec leur zone d'opération. Nous sommes également habilités dans la contre-mesure active de haute intensité pour vous aider à gérer les interactions inopinées et poussées que vous pourriez rencontrer avec matériel robotique autonome. Notre réputation dans le domaine du traçage logiciel, spatial et historique n'est plus à faire. Nous sommes particulièrement attentifs aux besoins de nos clients afin de leur éviter une trop grande gêne dans leur parcours entrepreneurial robotique. Notre savoir-faire vous permettra d'anticiper et, si le besoin s'en fait sentir, de pallier à toute déconvenue. Nous serions très flattés de vous compter parmi nos clients et d'entreprendre un partenariat prolifique pour tous.
La SNR. Dire que quand on m'a proposé ça, j'ai beaucoup ri. Mais finalement, quelle idée de génie. C'est bien connu pourtant. Pour cacher quelque chose, il faut le mettre en pleine lumière. Depuis le temps que cette couverture tient, c'est remarquable. Comme quoi, écouter un comptable, ce n'est pas une si mauvaise idée.
Vous n'avez pas été suivi ?
S'il vous plaît.
Méfiez-vous. Ne faites pas la même erreur que le baron Vorbreck.
C'était un incapable prétentieux.
Pas vous ?
Touché.
Le moindre relâchement pourrait nous coûter cher.
J'ai bien fait attention.
Espérons. Bon, rentrez.
Ah oui.
Vous avez l'air surpris. Vous attendiez à quoi ?
Bah, c'est que entre lire une série de chiffres sur un plan et voir un engin de 3 mètres de haut devant soi, il y a comme une différence.
C'est vrai que la première fois, il peut t'impressionner.
Je confirme.
Tâchons de faire vite, je n'aime pas traîner par ici.
Nerveux.
La discrétion et la rapidité dans ce genre de business sont gages d'une vie longue.
Et fastueuse.
Quelque chose à redire sur le prix, peut-être ?
Non, je vous taquine. Mais je ne vais pas me précipiter parce que ce genre d'endroit vous met mal à l'aise.
Je suis pas mal à l'aise, hein. Je vous dis que...
Oui, je sais. Discrétion et rapidité.
Ne soyez pas aussi désinvolte. Ça vous jouera des tours.
Ok, voyons donc ça. Donc vous l'avez bien désactivé.
Vous me prenez pour un amateur depuis le temps ? Bien sûr que oui. J'ai pas envie d'être une victime de plus de cette chose. La liste est déjà bien assez longue.
Bah, moi non plus. Montrez-moi le logement du générateur et la clé de bridage.
Voilà le logement et la clé.
Oui, et donc ?
Quand j'aurai été payé.
Depuis le temps que nous nous faisons affaire, c'est quel manque de confiance ?
La confiance dans notre business est un signe de faiblesse. Je vous fais pas confiance. Je vous tolère, car vous ne réchignez pas à payer le prix. Vous n'êtes pas le seul sur le marché, hein ? Je pourrais revendre cette machine à beaucoup de gens.
Comme c'est réconfortant de se savoir apprécier à sa juste valeur.
Ne faites pas trop le malin.
Ok, très bien. Donc... Oui, voilà, vous êtes encore un peu plus riche. Félicitations.
Et arrêtez ces remarques déplacées, elles ne font rire que vous.
Ok, monsieur le marchand, j'arrête.
Ouais. Voyons. Ok, c'est bon, j'ai reçu le paiement.
Et donc, la clé ?
Là, voilà.
Merci bien, j'en ferai un très bon usage.
Oh, maintenant c'est vous que ça regarde. Mon boulot est fini.
Ce fut un réel plaisir.
Ouais.
À une prochaine fois.
Ouais, c'est ça. Bon, allez, vous avez une heure pour décamper avec ça. Passez ce délai, je ne garantis plus rien.
C'est bon, vous pouvez venir. Oui, dans le hangar. Vous êtes bien calé sur ma position ? Bon, très bien, je vous attends. il est peut-être temps que je vous présente ma nouvelle acquisition. Vous avez devant vous le robot hégémonique de surveillance et de détection autonome, autrement appelé Reseda. Les administrations ont toujours un petit faible pour les acronymes. C'est le dernier élément d'une longue lignée de systèmes de surveillance qui ont jalonné une histoire non moins longue de politique d'immigration. L'élément déclencheur de cette entreprise fut le choix du président Trump de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique en 2017. Ce premier jet a tourné court, stoppé par le président Biden. Mais l'idée a commencé à germer et ce mur, avec tout ce qu'il implique, a ressurgi, mais avec des bases saines cette fois. Avec beaucoup de guillemets à base saine. C'est en 2040, avec l'élection du président républicain Turner, que le programme Barricade a été concrétisé. Dans ce programme, en plus du mur, étaient prévus des dirigeables dotés d'équipements optiques. J'y reviendrai sur ces dirigeables. Mais il y avait aussi des radars terrestres, des capteurs sismiques, des points de passage contrôlés et des tourelles de défense active. Dans le genre euphémisme, on a affaire à de la haute couture. Les TDA, encore un acronyme, n'étaient rien de moins que des tourelles blindées équipées de canons multitubes rotatifs crachant 6000 obus à la minute, ce qui pouvait arrêter et a arrêté les divers véhicules suicides lancés contre le mur, en créant de fait un no man's land d'environ 1 km de large tout le long de la frontière. No man's land appelé aussi la zone. Quand on y pense, c'est quand même dingue que le gouvernement mexicain ait autorisé les Américains à truffer d'obus à l'uranium appauvri le moindre véhicule qui se promenait à moins d'un kilomètre du mur. À l'époque, ils étaient moins regardants mais aussi corrompus jusqu'à l'os. Ah oui, les dirigeables. Bonne idée en ces temps de pénurie de carburant, mais des cibles de choix pour les passeurs qui se faisaient un plaisir de les abattre pour pouvoir prospérer en paix. Après les premiers balbutiements, ce sont devenus de véritables fortins volants avec pléthore de missiles et de contre-mesures. Dans le budget du mur, ils occupaient la deuxième place après les robots. Et donc, les robots. Au début, il s'agissait de simples engins à roues et dirigés depuis le QG de la police des frontières, qui de police n'en avait plus que le nom, se dit en passant. C'était une nouvelle force armée tout simplement, qui, dans les 10 dernières années de son existence, a fait plus de victimes que les forces armées classiques sur leurs différents théâtres d'opération. Et pour en revenir aux robots, ils étaient au début de simples modèles dérivés des rovers envoyés sur Mars. Ce qui a déclenché une levée de boucliers de la part des concepteurs des 10 rovers, qui n'étaient pas du tout ravis de voir les descendants de leur création remplir des missions beaucoup moins pacifiques. Mais ces robots à roues n'étaient pas optimisés pour le désert. Trop fragiles et facilement piégés dans le sable, ils devenaient alors des cibles de choix pour les passeurs. Voyant leur business fondre comme neige au soleil, ils ne laissaient pas passer une occasion de faire un carton sur les pauvres machines. Et comme toujours dans ces cas-là, ce fut un début de course à l'armement. Une lutte entre le glaive et le bouclier. Les roues furent vite mises au rebut et les premiers robots quadrupèdes sont apparus. C'est une étape qui paraissait surtout technique et qui fut franchie en 2065, pile le jour du 25e anniversaire du mur. On est passé d'un robot visuellement sympathique à une machine qui commençait à avoir des allures et une démarche organique, voire animale. Voir ces quadrupèdes sortir de leur boîte et filer dans le désert, un peu comme un animal sauvage à qui on rend la liberté, est un spectacle, comment dire, déroutant. Dans l'opinion publique, ce changement technique fut un réel tournant dans sa perception du phénomène migratoire. Au départ, c'était un peu comme des voitures et téléguidées qui patrouillaient dans le désert. Maintenant, c'était deux sortes de gros insectes qui sillonnaient la zone frontalière. Les témoignages des migrants arrêtés étaient symptomatiques d'un changement de ton. Les quadrupèdes leur faisaient peur, bien au-delà du fait qu'ils étaient repérés et bientôt interpellés. Cet effet psychologique, bien que non anticipé, a beaucoup plu aux décideurs américains. À tel point qu'un concours officieux a été lancé entre les différentes équipes qui géraient les quadrupèdes pour les customiser en bêtes effrayantes. L'équipe « gagnante » entre guillemets de ce concours se voyait offrir par les autres un tonneau de tequila et un repas dans le meilleur restaurant Tex-Mex de la région. Affligeant. La réponse des passeurs ne se fera pas attendre, et eux aussi vont lancer un concours. Ils paieront grassement celui ou ceux qui réussiront à capturer un quadrupède pour l'exhiber comme un trophée de chasse. C'est à la quatrième tentative qu'un quadrupède sera capturé vivant, entre guillemets. Les trois premières ne parvenant qu'à endommager les machines qui rentreront fissa dans leur box. Les images du robot errant semblait dans une arrière-cour au Mexique, et pour cause il était hors de portée du QG, ont un peu ébranlé l'assurance des responsables de la police des frontières. Pour laver l'affront, le patron de la police des frontières, le marshal Averti, lors d'une conférence de presse, annoncera que les quadrupèdes seront dorénavant équipés d'une charge explosive. Le robot, qui se trouvera hors de portée de son pilote, déclenchera la charge pour ne laisser que des débris à ses ravisseurs. Et sous-entendu qu'il ne resterait que des débris des ravisseurs également. Le cynisme poussé à son paroxysme. Et vous la voyez venir, la boulette. Un robot victime d'un bug qui va sortir de sa zone et se retrouver dans un village mexicain. Robot qui explosera en touchant 8 innocents. Donc exit les charges explosives. Mais arrivé des bipèdes. On peut légitimement se poser la question du pourquoi opter pour des bipèdes, qui semblent intuitivement moins stables que les quadrupèdes. Les tests ont montré que la station debout est plus efficace. Un joli clin d'œil du hasard à l'évolution de l'homme. Le progrès régulier dans le domaine du mouvement artificiel a aussi permis cette nouvelle étape. De plus, ces modèles plus hauts avaient une portée plus grande de détection. Et ce fut la longue succession des modèles de plus en plus puissants. Au début de l'initiative, tous les modèles étaient télécommandés. Mais le nombre hallucinant de machines sur le terrain, environ 2500 robots en même temps, demandait logiquement un nombre tout aussi ridicule d'opérateurs. Et détails techniques, cela engendrait un flux de transmission quasi impossible à traiter, sans compter les chevauchements de fréquence. En 2071, le premier modèle doté d'une intelligence artificielle déclaré opérationnel. Ce fut un bond en avant formidable pour la création des machines autonomes, et toute l'industrie de la robotique se développa de manière exponentielle. Mais même si les machines vivaient leur vie sur le terrain, il fallait toujours quelqu'un pour vérifier ce qu'elles voyaient. Un seul opérateur pouvait gérer plusieurs machines, mais la charge de travail était toujours très importante. Ce fut l'avènement de l'intelligence artificielle maître par rapport aux intelligences artificielles esclaves des robots. Jericho, c'est le nom de l'intelligence artificielle maître qui a officiellement été émancipée le 4 juillet 2073. Au début, elle était en mode apprentissage et demandait régulièrement l'intervention de régulateurs humains pour faire le distinguo parmi les alertes reçues. Et bientôt, elle ne demanda plus rien aux humains et gira le mur de manière, je cite, « parfaite même au-delà des espérances ». Et elle fut même mise à contribution pour l'élaboration des générations suivantes de sentinelles robotiques. C'est même elle qui déteint la maternité de la série des Reseda. Il y en eut 4 générations, jusqu'au modèle qui se tient devant moi. Comme vous n'avez pas encore de documents à son sujet, je vais vous le décrire. L'engin mesure 3 mètres de haut pour environ 1,20 m de large. Son architecture est plutôt simple. Le cœur du système est une sphère d'environ 80 cm de diamètre sur laquelle sont fixées de part et d'autre ses jambes. Les jambes sont des plaques d'à peu près 50 cm de large et de 3 mètres de long. Chacune est fixée sur la sphère par un axe sur l'équateur de celle-ci. Au repos, comme il est devant moi, les jambes forment un angle de 30 degrés. Cette position est très stable par temps calme. En cas de vent fort, un gyroscope dans la sphère apporte des micro-corrections pour garder l'équilibre de l'ensemble. Sur ce qu'on peut appeler l'avant du robot, on retrouve une sorte de crête verticale qui démarre un peu après le sommet de la sphère et qui se finit sur l'avant en porte-à-faux. Ce nez, entre guillemets, comme il a été surnommé par les techniciens, accueille les principaux capteurs. Cette version, la quatrième, fut donc surnommée Giacometti. C'est un opérateur un peu plus calé en histoire de l'art que ses collègues qui lui attribuera ce sobriquet. Il fait référence à un sculpteur, peintre et graphiste né au début du XXe siècle et qui a entre autres réalisé des sculptures de bronze qui figuraient un homme filiforme qui marche. Et Reseda est entièrement noir. livrée peu commune pour cette série de robots. Ils étaient principalement peints couleur sable. Logique. Des prototypes furent équipés d'un camouflage actif, mais le développement de ce camouflage a été brutalement interrompu par la situation que vivaient alors les États-Unis. Comme je l'avais évoqué plus tôt, la première pénurie de pétrole avait mis un coup d'arrêt partiel aux activités aériennes opérationnelles, et les dirigeables avaient retrouvé leur utilité. Cette première avait duré environ 4 ans, à partir de 2053. Le développement du pétrole de synthèse de deuxième génération avait permis de retrouver un semblant de croissance aux États-Unis, pendant quelques années du moins. Déjà, la première pénurie avait instillé dans les esprits l'idée que le pétrole ne tarderait plus à disparaître. C'était une arlésienne, cette hypothétique fin du pétrole. On en parlait depuis très longtemps. En l'an 2000, on annonçait sa fin dans les 20 prochaines années. La fin de la première pénurie a été le point de départ d'une course effrénée. Pour trouver une solution de dépannage, une autre solution pour le long terme, et surtout pour savoir qui mettrait la main sur les derniers hectolitres. Car même si on avait des palliatifs, psychologiquement, chacun voulait être le dernier à brûler les derniers litres de pétrole. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Quand vint la deuxième pénurie, les États les plus dépendants pensaient être prêts. Ce ne fut pas le cas. Les bioplastiques, les piles à combustible, les véhicules électriques n'ont pas suffi à encaisser le choc. Les États-Unis ne furent pas les premiers à morfler. Mais ce sont eux qui ont le plus méchamment pris. Plus haut on se trouve, plus dure est la chute.
2075 vit ce qu'un journaliste a appelé la bascule.
Depuis quelques années, le mouvement migratoire depuis le Mexique diminuait. Sans pétrole, les États-Unis devenaient moins séduisants.
Et donc, en 2075, fin du pétrole et fin du rêve américain.
En avril de cette année, aucun migrant ne tenta de passer le mur. Ce n'était jamais arrivé. Par contre, un léger mouvement de sortie du territoire américain commença à se faire sentir. D'abord, ce sont les derniers arrivés qui ont décidé de repartir. Ensuite, les migrants les plus intégrés, et même certains citoyens américains. En juin, le ruisseau devint fleuve. Le Mexique, qui passait pour être mou du genou par rapport à l'ogre américain au vu de toutes les couleuvres qu'il a dû avaler, se dévoila. Tranquillement mais sûrement, le pays avait préparé la fin du pétrole d'une manière plus intelligente. Pas en s'éparpillant dans des projets high-tech, illusoires et inefficaces. Il a choisi la solution basse. Un retour aux fondamentaux, à la rusticité, histoire de ne pas plier sous le choc de la pénurie totale. Ces dernières années, le pays avait paru dépassé par le changement à venir, comme quelqu'un qui se roule en boule dans un coin en attendant que le problème passe. Ils ne sont pas nombreux les pays à avoir choisi ces techniques, voire même aucun dans le monde occidental. Mais ce fut payant. Et maintenant, le Mexique tenait sa revanche. Et il était bien décidé à faire payer les États-Unis ces décennies d'arrogance.
À la fin de l'année 2075, les candidats à l'exil vers le Mexique venaient de plus en plus loin au nord.
Il n'était pas question d'accepter tout ce monde sans broncher.
Hasard ou pas, le 10 janvier 2076, une attaque informatique va cibler le système de gestion du mur pour retourner l'installation contre ceux qu'il était censé protéger.
On ne connaîtra jamais l'origine de cette intrusion, mais les conséquences vont être visibles par le monde entier. Les États-Unis, un poil désorganisés par la pénurie, ont vu le départ de toute cette population vers le Mexique comme un bienfait. Déjà, les migrants qui n'étaient pas les bienvenus repartaient, mais en plus, les Américains « officiels » entre guillemets qui repartaient étaient aussi autant de personnes en moins à gérer dans une telle situation. Avec également le secret espoir de coloniser le nord du Mexique pour profiter de la résilience mexicaine.
Mais cette opportunité fut douchée le fameux 10 janvier 2076.
L'attaque informatique désigna au système de défense du mur toute personne se trouvant dans le No Man's Land comme une cible. Ce jour-là, le flux de candidats au départ était très important. Les portes étaient grandes ouvertes vers le Mexique. À 8h45, l'attaque informatique commence. À 8h47 minutes et 45 secondes, le virus prend le contrôle du système de détection.
Alertés par les dirigeables, les robots patrouilleurs dans les rangs desquels on trouve le Reseda se déploient à toute vitesse. Ils commencent à pointer toutes les personnes qui se trouvent dans le No Man's Land. L'intelligence artificielle qui gère l'armement commence à faiblir, mais tient le coup. Plus pour très longtemps. Les verrous sautent les uns après les autres. Ironiquement, aucun système de coupure manuelle n'avait été intégré pour ne pas mettre en péril l'efficacité du mur, par peur d'une intervention humaine maladroite ou malveillante. C'est à 8h53 et 14 secondes que les opérateurs du mur assistent impuissants à l'écrasement de l'intelligence artificielle. Ces mêmes opérateurs assisteront également au démarrage de la procédure de mise à feu de tout l'arsenal du mur, qui commencera 23 secondes plus tard. Les tourelles avec leurs canons multitubes ouvrent le feu en premier. Les 1400 tourelles vont œuvrer de concert pour atteindre toutes les cibles désignées par les résidents. Ce sont 140 000 obus de 30 mm qui vont labourer la zone chaque seconde que va durer le déluge de feu. Plusieurs témoins diront avoir entendu le crépitement des armes à plusieurs dizaines de kilomètres du mur. Déluge qui va durer 179 secondes, le temps nécessaire pour vider les stocks de munitions. Le nombre de personnes présentes dans la zone à ce moment précis n'est pas connu. On l'estime toutefois à environ 85 000. Pas une seule ne sortira vivante de la zone. Pour les matheux un poil pervers, ça fait une moyenne de 294 obus par cible. Certains des opérateurs présents lors de l'attaque du virus et qui ne sont pas devenus fous ont raconté que l'intelligence artificielle était comme prise par une démence et elle a tenu à éradiquer tout ce qui se trouvait dans la zone. Même les robots qui désignaient les cibles ont fait les frais de cette folie. Pas un ne sera retrouvé intact. Mis à part l'exemplaire qui est là, devant moi. La topographie de la zone en sera même modifiée. Les photos aériennes montrent une bande totalement dépourvue de végétation sur un kilomètre de large tout le long du mur. Le choc fut bien évidemment mondial et ce qui restait de l'armée américaine fut chargé de détruire le mur. La petite histoire raconte que les dirigeables ont été abandonnés à leur sort et que pendant des années, ils divagueront au-dessus des États-Unis. Comme pour rappeler le massacre dont ils furent à la fois complices et témoins. Vous allez me demander pourquoi cet intérêt morbide envers le reliquat d'une des plus grandes tragédies humaines. C'est le souhait de perpétuer dans la mémoire collective l'existence de ce genre d'événement, pour éviter qu'il ne fasse les frais d'une possible censure de personnes soucieuses de ce qu'elles pourraient laisser à la postérité. Une épée de Damoclès mémorielle en quelque sorte.
Como el canto Yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias.